Non, moi je retournerai pas. Non, je rentrerai pas dedans. Là, je vais taper les pierres avec toi, hein.
Bienvenue au club sur le 99.8, tous les lundis à 21h et les jeudis à 10h en rediffusion, ou bien l'inverse. Ça ne sera pas le cas à chaque fois, mais ce soir, nous sommes en direct, lundi 23 octobre, en compagnie d'un invité, Pierre Mézel, du team Jolokia. Bonjour Pierre Mézel. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai qu'on est le soir.
Le plaisir de direct.
Mais on nous réécoutera, on n'a pas encore défini le bon mot pour se dire bonjour ou bonsoir ou salut, parce qu'en fait on est rediffusé en journée, donc c'est pas toujours facile, mais compréhensible peut-être par les auditeurs, mais si on l'explique, ça va mieux. Pierre Mézel, on va parler donc de votre expérience, de cette aventure qu'est le Team Jolokia. Mais on se retrouve tout à l'heure après le premier morceau de musique. Nous sommes en compagnie de Thierry Catroux et Eric Courtet. Bonjour messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Eric, aujourd'hui tu nous lis quoi ?
Je vous lis deux petits extraits d'Impressions et paysages, prose diverse de Garcia Lorca.
C'est un gigantesque poète, ce Garcia Lorca. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Thierry, tu as eu pas mal de mal avec la diversité, en tout cas avec le mot.
Oui, bah, c'est un mot...
Parle dans le micro, s'il te plaît.
C'est un mot compliqué qui renvoie à plein de notions, d'idées. On va essayer de décortiquer tout cela un peu rapidement tout à l'heure.
On se retrouve en deuxième partie de l'émission. Je voudrais vous faire un humble retour sur une expo que j'ai vue ce week-end à la Galerie du Faouidic. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur le pignon de la mairie de Lorient. Clémence de l'air de rien, une émission qui passe le jeudi soir à 19h. On a parlé il y a une quinzaine de jours. Les 22e rencontres photographiques, les traversées. Je n'ai pour l'instant vu que ce Faouidic, que cette expo dans le Faouidic, puisqu'il y a l'ESA, il y a plusieurs endroits. Mais j'ai été fasciné par le boulot d'un Derwan Morer quand on rentre dans la galerie. Ce sont des personnages dans un environnement aquatique, sur des impressions pigmentées, voire pixelisées, et qui donnent une véritable sensation d'apesanteur. C'était magnifique. Aussi, dans la salle du fond, le travail d'Evangelia Cragnotti, qui, elle, a voyagé sur des cargos et pris des images de personnages hyper humains. Cette femme avec son enfant dans les bras est super belle. Ou un monstre marin pour cet homme harnaché dans une cale vide immense. Des magnifiques photos. À l'étage, il y avait Marine Lanier. Pardon. J'ai eu un petit peu plus de soucis avec ces images, faute au serpent. Parce que j'ai un problème, alors il faudrait peut-être que je voie un psychanalyste un jour, mais j'ai un problème avec ces serpents, et donc j'ai eu un peu de mal à apprécier son travail, même s'il y avait une image avec une épée au sol sur une texture verte, qui était assez, assez jolie. En tout cas, voilà une expo qui ne vous laissera pas indifférent, donc je vous conseille d'y aller. Eric, tu as été voir la partie à l'ESA sur les traversées, sur les migrants,
oui.
Je crois.
Alors, j'ai pas vu celle qui actuellement. Je connais son travail parce que j'avais vu au festival de la Gacelli l'année dernière.
D'accord.
Justement, qui suit une famille de migrants. Très beau travail.
Très beau travail est donc à voir sur l'Orient en ce moment. Je vais répondre à quelqu'un, un ami en fait, qui me disait « c'est n'importe quoi ton truc ». Mais j'ai eu une confirmation dans le livret de Marina Lanier, « Superstition de marin ». Je cite « Quand on s'allume une cigarette à la flamme d'une bougie, on provoque au même instant la mort d'un marin inconnu, par noyade ou par accident. Cette croyance serait liée au fait que la Société des hospitaliers sauveteurs bretons, créée en 1873, vendait des allumettes. Ainsi, allumer une cigarette à la bougie revenait à priver de dons la SHSB. Donc, cher ami, j'avais raison.
Please God, please exist. Don't you worry, I'm an atheist. Change the world in peace and green. Give humans the age of 16. Please exist, please exist, please exist. I'm an atheist. Feed the rich, feed the poor. Change guns to flowers. Give the victims of love, the victims of love. New lovers, please exist, please exist. Please exist. I'm an atheist. Please exist. Please exist. Please exist. I'm an atheist.
Le club sur le 99.8 FM à Lorient. Please exist, Arnaud. Alors, Pierre Mézel. En fait, nous sommes rencontrés il y a pas très très longtemps autour de ce projet radio. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, je sais pas si on se tutoie ou les gars, on fait quoi? On est plutôt sur du vouvoiement ou du tutoiement?
Alors, moi je tutoie parce que j'ai eu l'occasion déjà de le tutoyer.
Tutoyons-nous. Alors, je ne sais pas si ça exclut l'auditeur. Peut-être.
Cher auditeur, nous sommes chez toi, cher
auditeur. on s'est rencontrés autour de ce projet radio. Et puis, parce que, a priori, tu aurais envie d'en faire, de la radio. Et je me suis dit, c'est l'occasion de se rencontrer, de découvrir ce que... Parce qu'on a eu le temps de se parler, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, tu es directeur du team Jolokia.
Exactement.
C'est ça, je ne me trompe pas. C'est ce bateau de course basé à Lorient. Ouais. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Tu es un fan de voile dès l'adolescence. Alors ça, c'est ce que j'ai lu en biographie à droite à gauche. Et j'ai vu que tu étais parti au Népal en 4L. Ouais. Donc c'est le lien, on va essayer de créer le lien entre cette 4L et ce bateau de course aujourd'hui. Tu es un aventurier ?
Je crois que je suis un fuyard. C'est-à-dire que la partir en 4L jusqu'au Népal...
Ouais, c'est pas rien.
C'est pas rien, ça peut paraître courageux, mais je crois que c'était de la fuite, et c'était de la fuite de justement de choses trop théoriques, trop déconnectées de ce que je pouvais vivre. Et après, moi j'ai fait des études et littéraires et en sciences sociales, et justement trop enfermé dans un modèle, qui était aussi un modèle familial, un besoin de fuite, et un besoin de rencontre, un besoin de contact direct, un besoin de sensations, de paroles également, peut-être le lien avec la radio.
Oui. voilà, de la rencontre avec exactement. L'autre. Peut-être exactement. Que dans ses études, il y a ce côté peut-être toujours un peu institutionnel, enfermement dans une salle de cours, etc. Et peut-être que là, ça permet de... Et ça a été compliqué de traverser. Alors j'ai vu l'Iran, le Népal. Pour aller au Népal, traverser l'Iran, le Pakistan, l'Inde. Tu es parti quoi de France ?
Donc je suis parti de France pendant un an. Donc la traversée a duré un an. Pas exactement un an. 10 mois pour aller jusqu'au Népal. 1 mois pour revenir avec la 4L. J'y tiens.
sans assistance, sans rien ?
Sans assistance, rien d'autre que la 4L. L'avantage d'une 4L, c'est que tout le monde la répare dans tous les pays.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Ça, c'est quand même très pratique.
Quelles années, à peu près, pour juste...
Donc, c'était 2006-2007.
Donc, ça fait une dizaine d'années.
Et c'était en plein dans la crise, le gros de la crise iranienne.
Oui. Est-ce que c'est une zone pas facile, ça, dans ce coin-là ?
Voilà, c'est surtout la traversée entre l'Iran et le Pakistan, qui est une zone tribale, ouais. La zone baloutche. Et c'est effectivement des zones où on peut avoir peur pour sa vie, clairement.
Oui.
Ce qu'on retrouve avec le bateau. Peut-être justement une notion de fuite, hein, chercher à vivre, mais à travers la fuite. Mais par contre, c'est un lieu de rencontre incroyable, parce que toutes ces populations ne voient absolument jamais personne d'autre que leurs propres ethnies, des touristes occidentaux encore moins.
Ouais.
Et donc arriver...
Une 4L encore moins.
Une 4L, voilà, pas plus. Ouais. Et donc arriver en tourisme, parce que c'est bel et bien... du tourisme, parce qu'on ne fait que passer. Moi, je suis resté que 2 semaines au Baloutchistan. Donc, c'est pas la rencontre, le temps du voyage.
Oui.
C'est un voyage parce qu'il s'inscrit dans une longueur. Oui. Pour moi, mais pour la personne, ça reste oui. du tourisme. Pour le Baloutch, je reste un touriste.
Tu ne fais que passer.
Je ne fais que passer. Mais la rencontre se fait. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ces longs voyages, c'est que la rencontre se fait et que soi-même, on redécouvre ses propres dispositions à la relation, à la découverte de l'autre.
Et le Népal, pourquoi cette destination en particulier ?
Alors, il n'y avait pas une volonté de...
Parce qu'il y a des 4L Trophy qui partent sur l'Afrique, il y a plein d'autres destinations.
Il y a plein d'autres destinations. L'idée était surtout de ne pas avoir de rupture géographique, donc de tout faire avec soit en bus, soit à pied. Là, en l'occurrence, en voiture pour aller quand même assez loin. Donc, soit on allait plein est, soit le souhait était d'aller plein sud, vers l'Afrique.
Oui.
Et je ne me sentais pas prêt à l'époque pour aller vers l'Afrique noire. Donc il fallait un point d'arrivée. C'était le Népal, mais ça aurait pu être la Chine ou plus proche.
La Chine, pour le coup, ça fait une distance...
Ça rajoute
beaucoup quand même. Là, c'est plus un an, c'est 2 ans.
Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a ce moment de bascule qui se passe souvent dans des voyages assez longs comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, arrivé sur les hauts plateaux népalais, il y avait la possibilité de passer au Tibet avec deux Sherpas qui disaient « on est à 1h30 et il n'y a pas de garde-frontière en face. On peut y aller si vous voulez.
Ah ouais.
Et là, la question s'est posée de... Est-ce que j'ai envie de franchir ce pas ? C'est tout de suite maintenant, ce sont ces Sherpas qui me proposent.
Ouais.
Par contre, je pars dans une zone connue encore plus grand parce que c'est entrer en fraude en Chine, même si c'est le Tibet, et puis repartir pour plusieurs mois à nouveau.
Avec des complications peut-être particulières en entrant dans cette Chine.
Des complications donc, à la fois politiques et à la fois personnelles. C'est-à-dire qu'on sort justement de son confort et c'est peut-être ça le véritable voyage. C'est quand le voyage vous dépasse. C'est-à-dire que d'un coup, se faire prendre... un inconnu complet.
Et du coup, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on s'arrête à un moment où on dit bon, je vais raison garder ?
C'est le manque des proches, les proches.
Au bout d'un moment, ça manque ?
Les gens manquent, la culture manque. Avant, je disais la culture française, c'est très beau, mais je refusais comme un jeune adolescent d'afficher un patriotisme trop fort. Une fois parti loin, oh, qu'est-ce que la France me manque, qu'est-ce que j'aime la France. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer les autres pays. Voilà, donc avant tout le manque des autres et le manque d'une culture.
Tu étais tout seul ?
J'étais avec ma compagne de l'époque.
Et ça, du coup, le retour, avec ça s'est bien passé ? Parce que souvent, on dit que les jeunes couples qui partent en voyage ensemble peuvent avoir du mal à résister à un voyage comme celui-là, qui dure quand même longtemps. Non, mais c'est une question.
Non, le retour s'est très bien passé. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été justement le début du voyage qui a été très compliqué. D'accord. Et ça, c'est le temps de la mise en commun. Encore une fois, c'est le temps de la rencontre, quand on se rencontre intimement et qu'on sort de la façade de ce qu'est l'autre.
Oui.
C'est-à-dire de l'autre, il est merveilleux, on a des projets communs. Puis quand on rentre dans les engrenages qui nous fabriquent les uns les autres, c'est là où il faut trouver une alchimie.
J'ai vu dans le... J'ai cherché Jolokia pour faire la transition avec Jolokia, et que c'est un piment qui est originaire du nord-est de l'Inde. Donc c'est quelque chose que tu as découvert là-bas, parce qu'on le retrouve, ce piment, sur le... Enfin, c'est le nom du team Jolokia, sur le logo. C'est quoi ? C'est en t'arrachant le palais avec ce piment que qu'une idée t'est venue
heureusement non, parce qu'il paraît que ce piment...
Apparemment, c'est le plus fort du monde.
Voilà, donc ce fut le plus fort du monde. Ah, je crois qu'il a été détrôné, mais ils sont tous détrônés au fur et à mesure. Et heureusement que non, parce que je crois que ça fait des ulcères. On voit des vidéos sur Internet où les gens ont tout de suite des boutons partout autour d'eux. Quoi, bref, pas très agréable. Non, le piment, c'était avant tout la volonté de parler justement de ce qui surprend. Parce que oui, quand on va en Inde, le piment surprend, mais quoi, la force du piment surprend. Mais c'est la volonté de faire le lien avec une invitation au voyage, mais une invitation aussi au goût. Et moi, ce que je trouve très marquant avec la nourriture épicée, c'est que au début, on ne voit pas de saveur. On voit qu'une seule. On est envahi par une brûlure. Ouais. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on s'habitue à cette différence, qui est une différence culturelle, une différence de palais, eh ben, on découvre qu'il y a derrière mille et une saveurs. Et c'est en fait le parallèle avec la relation à l'autre, à nouveau.
D'accord.
Donc c'est le piment de la vie, le piment des épices, et apprendre à apprécier ce qu'on ne connaît pas.
Donc ça reste l'idée de départ du team
Jolokia.
Du nom Jolokia et de ce projet.
Pimenter les équipes, accepter le goût de la différence et aller chercher derrière. Ce qui dérange. L'autre dérange.
On voit aussi dans ce team Jolokia, il y a deux mots qui reviennent, défi intégration. Ils sont étroitement liés, le défi de l'intégration, ou ce sont des choses bien distinctes l'une de l'autre ?
Alors en fait, défi intégration, c'est un ancien projet.
Je le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois.
Oui.
Mais c'est un mot que j'ai vu plusieurs fois.
C'est un ancien projet qui, lui, s'appelait intégration parce que c'est pas un projet que j'ai monté d'ailleurs. Hein, j'étais juste intervenant dessus, quoi, conseiller dessus. Mais c'était un projet qui mêlait le handicap en personnes handicapées et personnes non handicapées et qui avait pour but vraiment de montrer qu'on pouvait travailler ensemble et réaliser un record océanique.
D'accord.
C'était pas tout à fait en lien.
D'accord, c'est quelque chose qui a évolué. Parce que ce mot handicap, il a disparu en fait de quand je regardais le site internet.
Voilà, exactement.
Il a disparu du concept, alors qu'il y a quand même des gens qui sont handicapés.
Alors en fait voilà, c'est ça, c'est très intéressant de parler de ça parce que c'est quelque chose. Le défi intégration était une aventure qui a marqué à l'Orient.
Oui.
Parce que c'était la première fois. Que ce bateau rouge arrivait. Et c'était effectivement quelque chose centré sur le handicap. Avec une personne qui s'appelle Éric Bellion, qui avait monté lui-même avec un ami à lui le défi intégration, on a eu l'envie de dépasser cette notion de handicap parce que quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est justement de sortir des silos du handicap, du jeune, du vieux, du pauvre, du riche, du patron, du salarié, du noir, du blanc, etc. Mmh. Et en ayant participé à ce projet Défi Intégration, on voyait en fait que, en mettant en exergue la possibilité d'intégrer des personnes en situation de handicap, eh ben en fait, on les excluait aussi. D'où l'envie de travailler sur les diversités.
D'accord.
Toutes les diversités.
Et c'est pour ça que dans la page équipage 2017, on ne voit que des visages. Alors, ce sont des visages plutôt européens, pour la plupart. Il y a une jeune fille noire, mais... c'est quoi la diversité du coup là-dedans ?
Eh ben, c'est une excellente question. On en parlera peut-être tout à l'heure sur les définitions, sur quoi, sur une vraie question lexicale autour de la diversité. Nous, ce qui nous intéresse avec Jojokia, c'est vraiment ce rapport à la différence, ce rapport à l'autre, et est-ce que je peux accepter l'autre, quelle que soit sa différence, et arrêter justement d'enfermer les gens par silos et de voir d'abord leurs différences visibles. C'est-à-dire arrêter de voir d'abord qu'il y en a un qui est un homme, l'autre qui est une femme, l'autre qui est noir, l'autre qui est blanc, et commencer par se dire « je vais être ouvert à la différence qu'il me propose ». Et donc, c'est un rapport, en fait, à l'altérité, aux diversités, au sens le plus large du terme, d'où les personnages qui sont sur ce... Je dis personnages, c'est marrant, parce que je les vois aussi comme des personnages, qu'on voit sur le site, qu'en fait, on n'a pas une diversité qui est en place. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Oui, il y en a qui sont noires, pas beaucoup pour l'instant, parce que les gens...
Quand je parlais de diversité tout à l'heure, c'est que quand on regarde cette galerie de portraits, c'est quand même plutôt du nord-européen.
C'est du nord-européen, européen, complètement. Ouais, parce qu'on travaille, nous, sur toutes les diversités à nouveau. C'est-à-dire que dans nos diversités, vous pouvez l'entendre par homme-femme, vous pouvez l'entendre par jeune ou vieux. Là, on a une belle diversité. Mm-hmm. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, diversité. Et nous, on essaye de montrer que la diversité, ça peut être n'importe qui. Et donc, on fait un recrutement d'équipiers qu'on essaie de faire le plus large possible. Et ce recrutement reflète en fait les gens qui postulent sur notre site internet pour devenir équipier. Bon, et effectivement, on n'a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui soient noires noires ou d'autres couleurs que blanches.
Ouais,
parce qu'il y a encore cet empêchement justement de venir participer avec nous à cette grande diversité et que c'est justement, on est tous très enfermés dans des silos.
Bon, mais on parlera de diversité tout à l'heure avec la chronique de Thierry. Allez, on fait une petite pause musicale.
Look up from the hymn, all around at the faces of families closing their eyes. We're taking communion. The giver's not knowing where their money's going, the sinful is throwing away. Sweat on my brows.
si, toute la journée. Allez, Passing the Hat, Colwark Kids. Eric, à toi de jouer.
Toutes les choses dorment d'un sommeil léger. On dirait que dans les rues tristes et silencieuses passent de vieilles ombres qui pleureront sur le minuit. De tous côtés, des ruines couleur de sang, des arcs pareils à des bras qui cherchent à s'étreindre, des colonnes brisées, jaunes, couvertes de lierre, des têtes qui s'effritent parmi la terre humide, des écussons qui disparaissent sous un verre obscur, des croix rouillées qui parlent de la mort. Puis, un doux son de cloche qui sans arrêt bourdonne aux oreilles. Des voix d'enfants qui portent, toujours très loin, et un aboiement continuel qui emplit tout. Enfin, la lumière, infiniment pure. Sur le ciel, d'un bleu intense, se découpent avec force les palais et les maisons aux oriflammes de cisimbre. Les rues sont vides, et si quelqu'un les traverse, c'est d'un pas très lent, comme si l'on craignait de réveiller quelques personnes au sommeil délicat. Les herbes envahissent les chemins et se répandent par toute la ville, obstruent les rues, bordent les maisons et effacent les empreintes de ceux qui passent. Les cyprès donnent une note de mélancolie à l'atmosphère et sont des encensoirs géants qui parfument l'air de la ville, continuellement dissous en une poussière rouge.
Garcia Lorca.
Garcia Lorca, impressions et paysages, prose diverse.
Gigantesque bonhomme.
Une envie. Une humeur.
C'est un voyage, c'est un.
Oui,
périple,
c'est son. Quoi
tu vas nous relire une deuxième. Même,
tout, de, oui, deuxième, tout à l'heure, on va se retrouver dans un jardin.
Dans un jardin.
Ouais. Oui, c'est un recueil de prose, de textes qu'il a écrit suite à un voyage d'études. Donc voilà, il était très jeune, il avait 19 ans. Donc c'est vraiment son premier livre publié. Et ça donnait envie, cette humeur, quand je parlais d'humeur, de littérature du moment, face à la surinformation aujourd'hui, avec des petites résonances quand même espagnoles et ce qui se passe en Catalogne. Voilà, j'ai eu envie de me replonger dans un auteur qui pose les mots tranquillement et qui donne envie, en tout cas, de s'extraire de ce bruit.
Parce qu'il a été, fusillé par les franquistes en 1936, mais il n'était pas catalan du tout. Hein. Il est en Andalousie.
Il est né aux environs de Grenade. Ouais. C'est un Andalou, effectivement. Et d'ailleurs, je confirme qu'il a été tué par la milice franquiste en 1936.
C'est 36,
ouais. Voilà, suite à son engagement et à ses écrits. Et impression et paysage, justement. On commence déjà à sentir cette relation au mouvement surréaliste. Et puis, il y a deux thématiques qui lui sont proches, c'est-à-dire l'Andalousie, particulièrement Grenade, et puis l'obsession de la mort, déjà, qui commence à le travailler.
Juste quand même, il est mort aussi parce qu'il était homosexuel. On parlait de diversité, ça peut être intéressant de le noter. L'homosexualité, c'était pas très bien porté en Espagne et un peu partout.
En Europe, dans ces années-là, oui.
Effectivement, Thierry a raison, parce qu'il a aussi eu du mal à dire et à...
Bah, le coming out à l'époque, ça devait pas être simple. Hein.
Complètement. Donc voilà, c'est
en espagnol, je sais pas comment on dit, coming out.
Je ne sais pas non plus, mais... Sur les bateaux de course, on lit beaucoup. En voyage, j'imagine qu'on lit beaucoup.
Sur les bateaux de course, on lit pas.
On lit pas.
Non, on a rarement le temps, malheureusement.
Même sur des longs trajets.
Voilà. Alors sur des longs trajets, on a un peu le temps de lire, mais on a surtout le temps de lire en mer quand on emmène le bateau à un point A ou B pour commencer une course, un convoyage. Et puis le plaisir de la croisière, c'est aussi beaucoup de lire.
Et donc en lecture,
moi je vous
Pierre Mézel, il dit quoi ?
En ce moment, très récemment, je viens de finir un livre de Patrick Chamoiseau, qui est un auteur né à Fort-de-France, et qui est un ami de Glissant, et qui parle de voyage, qui parle de relations en même temps. Et je peux peut-être vous en lire un petit extrait aussi. Faut pas hésiter à me couper si je suis trop long, le début est déjà très parlant. Qu'elle soit consciente ou pas, la relation déterritorialise. Elle crée dans nos imaginaires individuels ou collectifs des lieux sensibles qui se superposent aux lieux sensibles du monde. L'expérience du monde que vit chaque individu s'accumule en lui, enrichit sa mémoire, lui concrétise un lieu-monde qui n'appartient qu'à lui, un précipité de paysages, de musique, de danse, d'œuvres, d'images ou de rencontres qui font matière sensible dans le concret et le virtuel. Un grand poète de la relation pourra disposer ainsi d'une géographie cordiale. Il pourra s'inventer son pays composite, son pays archipel dans la substance du monde et l'habiter à sa façon, dans l'évidence et le mystère. Ce sont ces lieux que vont révéler les migrants à venir, que personne, peut-être, ne soupçonne.
Poésie et voyage. Il faut être poète pour s'inventer un pays. C'est ce que ça dit.
C'est exactement ce que ça dit, mais ça dit aussi que nous sommes tous poètes si on accepte la relation, si on accepte justement le différent, et que le voyage commence là, autour de cette table, en s'écoutant les uns les autres, ou au coin de la rue, d'un simple regard.
Eric, on continue le voyage, alors on va...
Alors on se pose dans les jardins.
On se pose dans les jardins. Donc là, on s'arrête un instant et on observe.
Les souvenirs que laissent les jardins sont infiniment vagues. Lorsque nous traversons leurs recoins nombreux, nous nous sentons gagnés par la mélancolie. Toutes les mélancolies ont une essence de jardin. À l'heure du crépuscule, des frissons aux tons ténus, qui ont toute la gamme de la couleur triste, parcourent le jardin. Dans les aubes obscures, tout l'esprit de la femme qui nous obsède revit parmi le lierre. Et dans le cadre de cette fontaine d'argent liquide et de ces feuilles éternellement inquiètes, notre imagination place les visions spirituelles de notre monde intérieur que fait surgir la magique suggestion de l'atmosphère. Il semble que les jardins aient été créés pour servir de reliquaire à toutes les scènes romantiques de la terre. Un jardin, c'est une chose supérieure. C'est une mosaïque d'âmes, de silence et de couleurs qui guettent les cœurs mystiques pour les faire pleurer. Un jardin, c'est une coupe immense aux mille essences religieuses. Un jardin, c'est quelque chose qui vous étreint avec amour. C'est une paisible amphore de mélancolie. Un jardin, c'est un tabernacle de passion. C'est une grandiose cathédrale pour de très beaux péchés. Dans les jardins se cache la mansuétude, l'amour et cette sorte de vague à l'âme que donne l'oisiveté.
Garcia Lorca, Chamoiseau, la poésie sur Radio Balise.
Who's bad to the kiddie in a jacko hat? To the kiddie in a Rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat. A young girl heard the truth in an alley cat howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you, do what you want to do if you feel that it wants you to. Look, true never meant nothing more than it means right now when everything's fake. But you and your deepest reaches keeping secrets know what it takes to make a meaning mean something. I'm moving through a space that some can't see. I know this space exists, so do you if your heart beats in the oldest groove. Life is huge, but we have shrunk it, we've made it small. We used to walk tall, but who cares, right? We're having a ball. Don't show, I can see. Them things you don't say, you speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It needs you to need it. Go ahead, keep it until it withers you. Move fast, don't stop, you got things to do. Tell yourself, ask them, man, it isn't you. Nod your head and believe that until it's true. You can tell it not to show its face when you are trying to hold your space. But it's in you, deep in your sinews, and it comes out on the coldest days. See the kid with the memory he can't shake. See the man with the lover on his mind. See the lady with the guilt and the heartache. See the woman trying to battle with time. See the man with the blood on his hands. See the girl with the hands on the hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide ain't hiding. No firm ground, but we ain't siding. Don't haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It's yours when you
you're ready to receive it. You're so focused on finding the differences, you ignore the bonds that bind us. Got my hand on my heart when the rhythm hits, it's looking for us but can't find us. In the valley of vanity viciousness, full schedules and empty containers, we're kissing the cautious that cripple us, enjoying the beigeness. Do it your way and I'll find you ridiculous. Pick apart your behavior. Their scorn ignites what inhibits us, and then we hate ourselves, and our fear pickles us. Sitting in jars cause it's safer. Some of us are happy to live with it, but some of us know it's against our nature. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things will haunt you, let them be. That thing you weep for, leave me. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it.
Kate Tempest sur Radio Balise et dans le Rock Club. Alors on devrait dire le club, le Rock Club. On a décidé avec mes amis Thierry et Eric, on allait inviter un psychanalyste pour voir deux. Allez, c'est le moment de la chronique de quatre roues.
Bien alors, diversité, puisqu'on y est, on y va. Bon, bah, la diversité, pour tout dire, ça va de soi. Plutôt par les temps qui courent, il est assez difficile de ne pas la considérer comme un passage obligé de nos valeurs. Bah, c'est d'abord un thème à la mode. Nous nous devons d'accepter la diversité du monde, ses couleurs et ses formes si éloignées des nôtres. Un côté United Color of Benetton, une mise en scène superbe de cet idéal mondialisé, de cette reconnaissance de l'autre, qui trouve sa source dans le tourisme. Le tourisme s'entend bien entendu comme cet exode de courte durée nécessaire pour se ressourcer des pays les mieux développés vers l'ailleurs. Un ailleurs en voie de développement, un ailleurs tout plein d'exotisme, de pacotille le plus souvent. Nous allons découvrir la richesse du monde. Les conquistadores des temps modernes sont lestés d'appareils photo avec lesquels ils mitraillent sans fin l'extraordinaire altérité de l'autre. Et de nos voyages, nous rappelons des petits bouts de souvenirs sous forme d'objets magiques, censés nous rappeler les trésors parcourus. Au moins, pendant les 15 jours en moyenne que durent ces voyages bornés par les aéroports, ces sas qui nous conduisent dans ces failles temporelles, nous adorons cette diversité qui sait se tenir à distance, loin de nous. Et nous ne sommes pas avares de retour pour raconter nos exploits héroïques à nos amis qui, eux-mêmes, à la maison, les choses sont moins drôles. Le travail, d'abord, de plus en plus incertain, de moins en moins sûr, menacé justement par cette mondialisation que nous avons tranquillement côtoyée il y a peu grâce à un vol low cost. Le mot « délocalisable » atteint immédiatement les zones sensibles de nos cerveaux et nous oblige à nous précipiter sur un efferalgan pour calmer les effets de résonance. Ce vaste monde, si présent désormais dans notre quotidien, est devenu une source inépuisable de dangers mortifères et totalement imprévisibles. L'envers du décor a le côté sombre des films d'horreur. Des nuages tchernobyliens aux jouets chinois, si dangereux pour nos adorables bambins, du Made in China, Vietnam, Bangladesh, qui certes coûte moins cher et nous rend accessibles les merveilles inépuisables de la consommation, mais détruit des pans entiers de nos industries. Des OGM qui rentrent en douce dans la plupart des produits que nous continuons, malgré tout, de consommer. Au Viagra indien qui... la diversité, pour le coup, a ses limites. Une diversité qui prend de plus des formes inacceptables quand elle débarque par bateau entier à nos portes sous prétexte de fuir des situations terribles. Les migrants, le mot d'élabore nous fait peur, sont comparables aux hordes barbares qui mirent fin à l'Empire romain. Ils débarquent, toujours plus nombreux sur nos côtes, sous les arguments les plus divers, s'installent dans les interstices aux périphéries de nos banlieues. Repoussés, ils reviennent. Ils sont juste de nulle part. Africains, asiatiques pour beaucoup. Ils ne sont surtout pas bienvenus. Ou au mieux, si l'on ne veut pas trop bousculer ses propres valeurs ailleurs. Quintessence absolue de nos valeurs, ils les bousculent. Mettent à mal nos contradictions. Révèlent la part maudite de nos pensées. Nous devons les détester d'autant plus, les haïr férocement, de nous laisser ainsi nus devant le monde. Nous prêchions si bien la bonne volonté du vivre ensemble, et ce discours, ces droits de l'homme gravés dans le marbre des droits fondamentaux, s'effritent, se diluent à la tempête venue. Et voilà notre œil averti, méfiant d'un coup, plus près à y voir, de plus près comment nous avons jusqu'alors su concilier nos vertus avec le quotidien de nos existences. La diversité, ne serait-ce point celle surtout qui nous sépare? Les enfants dès la maternelle à l'école, dans des écoles de moins en moins républicaines. Les vieux, dans des EHPAD, abandonnés à un personnel maltraité et maltraitant. Et entre les deux, des classes sociales de plus en plus tendues entre ceux qui payent trop d'impôts et celles qui sont assistées. Une société où vous avez les winners, les gagnants qui s'enferment dans des gated communities, des ensembles résidentiels fermés à l'abri de la grande foule des losers. Où les injustices ne vous intéressent que si elles vous concernent, où les difficultés des autres sont absentes de vos préoccupations, quelles que soient les plus humbles. Un trottoir peut devenir très compliqué pour des gens à la mobilité réduite, ou, plus évidente, comme le double handicap des handicapés, que l'on veut bien plaindre, mais ne pas intégrer. Bref, la diversité, oui, bien sûr, mais à la condition de ne pas se payer de mots, de savoir la regarder en face, de ne pas enjoliver pour ne pas voir ce qui nous dérange, de se battre absolument pour qu'elle devienne nôtre, et cela alors que les clivages, les tensions se font de plus en plus lourdes. Ce combat-là a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une réalité.
Ben dis donc, Thierry, tu es en colère?
Un petit peu, oui. Parce que, bon, après tout, la diversité, c'est intrinsèque à notre civilisation, à la fameuse notion des droits de l'homme. Nous sommes tous égaux devant la loi, nous sommes tous reconnaissables. Et en fait, on est dans une société qui, aujourd'hui, met un peu de côté ces grands idéaux universaux.
Pierre Mézel ?
Moi, je suis heureux d'entendre ce que je viens d'entendre. Parce que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, nous qui parlons de diversité, on a un énorme problème, c'est comment dépasser cette fausse diversité que certains entendent derrière, et comment est-ce que justement on parle de relations, comment est-ce qu'on parle de rapport, de véritable rapport à l'autre, comment est-ce qu'on fait pour que... Je reparle de chamoiseau ou de glissant. Comment est-ce qu'on fait pour parler de tout monde ou de mondialité? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on comprenne que c'est la différence qui nous construit chacun de nous? Tu parlais de l'Empire romain. Là, en ce moment, je suis en train de lire aussi un livre de Patrick Boucheron sur l'histoire mondiale de la France, qui a déplu à beaucoup de gens. Mais où justement, il déconstruit ce mythe de l'Empire romain qui n'aurait été qu'une unité romaine avec tout ce qu'on sait du génie romain, où en fait, c'était pendant 400 ou 500 ans, l'Empire romain était constitué de plein de civilisations venues d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, qui se mélangeaient, qui étaient parfaitement intégrées en l'Empire romain, d'Afrique. Et c'est cette diversité-là qui faisait l'Empire romain, qui faisait cette unité-là.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de fausse diversité en tant qu'Européens du Nord, quand on revoit cette page. Alors, je reviens sur cette notion-là, mais... on n'arrive pas à intégrer ou à aller chercher le divers, enfin le.
Bah moi je pense qu'on intègre.
Le migrant, le, t'en parlais tout à l'heure.
Ouais, ou... mais je pense que non seulement on intègre plus, mais on se désintègre derrière. C'est nous-mêmes qui explosons derrière cette impossibilité que nous avons de justement d'accepter l'autre dans ce qu'il n'est pas, parce qu'il ne correspond pas à une image idéale que nous avons de l'autre, quoi.
Et dans le voyage, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on va à l'extérieur, on reproduit la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher, sous couvert qu'on aille chercher la diversité. A priori, si on va avoir rencontré l'autre, ce que tu as fait au Népal, Pierre.
Bah, ce que disait Pierre était intéressant parce que c'est à la fois, il est allé jusqu'au Népal, mais il parle aussi de son voisin. La diversité commence par le voisin qu'on croise, mais à qui on ne parle pas parce qu'il joue à la belote, quoi. Oui. C'est vraiment trop naze, quoi. Et bon, donc on est capable de trouver charmant ce qui est fort éloigné de nous, mais pas du tout accepter ce qui est trop proche de nous.
Éric, tu as une réflexion là-dessus ?
Bah, y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais c'est vrai que sur la notion du voyage, ça dépend du projet finalement. Et des fois, on a envie de partir en voyage aussi pour rencontrer l'autre. Et parfois, on part en voyage juste pour s'extraire un peu.
Pour se rencontrer peut-être lui de soi-même.
Peut-être aussi, voilà. Donc c'est important. Et puis parfois aussi, on va en voyage parce que ça fait partie un peu de...
Je pense que le premier des voyages, c'est se déprendre de soi. Se déprendre de ses idées et accepter, justement, c'est ce que tu disais, Pierre, l'autre dans sa différence complète. Ne pas être dans le jugement. Parce que tout à l'heure, on parlait de piment, ça m'a toujours intéressé. Parce que souvent, l'Européen dit « Je ne comprends pas que vous puissiez manger de cette manière-là. » Alors que à peu près tout le monde, sauf les Européens, mange pimenté. Et donc, c'est colossal de mépris en même temps, quoi, derrière, et de suffisance imbécile, quoi.
Vous retrouvez ça dans le projet
Complètement, ouais. Complètement. Et c'est...
Team Joloka, pour
Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. J'en ai oublié une, c'est pas grave, je vais reprendre l'autre. c'est quand on parlait de voilà, la diversité, c'est dingue à quel point, en fait, parfois, les gens vont chercher dans la diversité ou dans le voyage, et dans le voyage, le même. Le même. Oui. Et quand tu disais, Thierry, que c'est nous qui mourons, moi, je le pense très sincèrement, que c'est nous qui mourons, parce que le même, l'identique... Comment est-ce que la vie, comment est-ce que l'intelligence, comment est-ce que l'humanité se construit quand on est dans le même? Dans le même, on s'ennuie, dans le même, il n'y a rien. Oui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pseudo-voyages. C'est-à-dire qu'on va n'importe où au monde et on retrouve les mêmes galeries commerçantes, on retrouve les mêmes personnes, les mêmes appareils photos, etc., etc.
Après, on n'est pas obligé d'aller dans le monde entier, hein. Ça peut être dans la ville voisine, rencontrer, on reproduit les mêmes choses.
Exactement.
Après, ça, c'est la mondialisation qui veut ça aussi.
Mais à l'heure où on repense un peu le... Enfin, en tout cas, on se pose la question sur le sens même de l'Europe. Mmh. Aujourd'hui, j'entends des hommes politiques qui sont plutôt ouverts. J'ai entendu quelque chose qui m'a un peu choqué la semaine dernière.
C'est contradictoire, un homme politique ouvert.
Enfin, non, mais je pense qu'il y a quand même certains qui ont des idées un peu nouvelles. Et malgré tout, dans le discours, c'était moi, je veux bien repenser l'Europe, mais pas avec les Pays-Baltes, parce que les Pays-Baltes, j'ai pas la même culture qu'eux. Et justement, on n'a pas envie d'entendre ça.
Et ça n'a pas de sens. Alors après, tu me posais la question par rapport à Joloka. Oui, c'est ce qu'on essaye de montrer. Mais tu vois bien, en posant cette question, tu vois bien la difficulté d'aborder ce sujet avec un bateau ou avec un quelconque objet. Comment est-ce qu'on fait pour montrer de façon pratico-pratique, à travers quelque chose qui puisse parler de façon sensible à tout le monde, de diversité, d'une réelle diversité, des diversités de ce rapport à l'autre? C'est très compliqué, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais du coup, on passe parfois aussi à côté d'un message parce que peut-être on est trop idéaliste.
C'est l'objet premier de cette aventure
Pour moi, c'est complètement l'objet premier. C'est ce qui fait que je me suis séparé de la personne avec qui on a créé le projet au début, pour qui ce n'était pas l'objet premier. Pour qui l'objet premier, c'était la course. Et c'est là-dessus qu'on va centrer tout notre... toute la suite où on va travailler justement sur les diversités européennes. Et moi, c'est quelque chose qui me... Tout ce qui est l'injustice sociale, c'est quelque chose qui est dans lequel je suis depuis gamin. Et c'est autour de ça qu'est le cœur de Joloka.
La course suppose d'éliminer, justement. Donc, je comprends bien qu'on puisse se séparer, parce que là, c'est faire la course avec. C'est pas pareil.
Bon, on fait une petite pause musicale avant de finir, et puis on se retrouve pour conclure tous ensemble. End Has No End, The Stroke, sur Radio Balise. L'émission se termine. Merci Pierre Mézel de nous avoir accompagnés pendant cette petite heure. Alors mes collègues voudraient que ça continue un tout petit peu plus, mais on est tenu par nos horaires. Des choses, parce qu'en fait la conversation on pourrait la continuer jusqu'au bout de la nuit, mais c'est à chaque fois on fait ça, on voudrait faire ça dans nos émissions. C'est vrai qu'il faudrait se caler sur 2 heures, mais je suis pas sûr que voilà. Moi j'ai envie de faire 1 heure.
Puis au-delà, c'est les heures sup.
Ouais, c'est ça. Des choses à annoncer. Alors je sais que j'ai vu sur le site que vous recrutez du monde au Team Jolokia. Donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle équipe.
Voilà, on recrute notre équipage de navigateurs qui sont des navigateurs volontaires. Hein. Personne ne paye. Et moi j'ai vraiment un message à faire passer. Justement, si vous voulez montrer cette diversité, si vous voulez montrer qu'on peut faire des choses ensemble, tout simplement, et se rencontrer, et qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre couleur, votre apparence physique, je m'en moque, qui que vous soyez, et c'est ça la diversité, n'hésitez pas à venir postuler pour se rencontrer et pour montrer ce qu'est la rencontre.
Alors, il y a une phase un petit peu technique que j'ai vue sur le site internet où on doit envoyer un courrier, en tout cas se présenter, ou une vidéo, ou un son, ou je ne sais. Mmh. Donc là, c'est une chose. Après, dans cette notion de recrutement, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui viennent. Oui, non, beaucoup.
On a environ 200 dossiers par an.
D'accord.
Et ce ne sont que 20 navigateurs à la fin.
Ouais.
Et du coup, il y a discrimination au sens propre du terme.
et c'est quoi le...
Seuls les meilleurs sont choisis.
Voilà, seuls les meilleurs.
Et c'est quoi le critère pour vous?
Mais si je l'ai dit, je trompe ma sélection. Non, le critère, ça va avant tout être des critères d'ouverture à l'autre. Voilà, sans rien.
C'est principalement ça.
C'est principalement ça, et il n'y a aucun quota de quoi que ce soit. On fait aucune discrimination négative, évidemment, mais aucune discrimination positive non plus. Mmh. Donc c'est vraiment une recherche sur est-ce que l'individu a envie d'aller vers le collectif et d'aller vers l'autre.
Bon, tout ça, vous le retrouvez sur teamjolokia.com, c'est ça?
Exactement. Bon.
Eric, quelque chose à annoncer pour le week-end qui vient, alors le week-end du 30, là, à part les soirées Halloween?
Ouais, moi je conseille donc de découvrir les travaux photographiques de...
Oui, moi aussi.
De tous les invités de la Biennale, de la rencontre photographique, Les Traversées, ça s'appelle. Oui. Et notamment le beau travail d'Olivier Jobard, donc à la galerie de l'École des Beaux-Arts. Tu seras suédoise, ma fille. Voilà que ça s'appelle, son travail sur les migrants.
Très bien. Thierry ?
Oui, après avoir été fleurir vos tombes, n'oubliez pas d'écouter Radio Balise, c'est divers et varié.
Moi, j'ai juste une annonce par rapport à Radio Balise, justement. Nous serons présents, nous allons faire 4 émissions spéciales. En direct, les 2 et 3 novembre et les vendredis 10 et samedi 11 novembre de 15h à 17h. On va inviter des artistes, il y aura des bénévoles de l'association et qui font des émissions, vont les faire des reportages, dont vont animer ici. Voilà, on va essayer de faire, on va essayer de voir si on peut faire du live, c'est pas gagné, mais on va essayer de voir si on peut faire jouer un artiste avec une guitare ou un truc assez simple, parce que le studio n'est pas très grand. Donc je vous invite à vous connecter sur ces indisciplinés 2017 à partir du 2 et 3 novembre, et en tout cas à l'antenne de Radio Balise de 15h à 17h. Pour nous, vous nous retrouvez ce jeudi, vous allez nous réécouter, mais bon, bref, c'est comme ça, c'est le truc de la rediffusion, le jeudi, alors j'ai même pas la date en fait, à 10h du matin. Sinon, en replay sur le site internet de Radio Balise, 26, à partir jeudi de 26. Jeudi 26, merci Eric de suivre, et à partir de jeudi après-midi et vendredi, vous aurez l'émission en replay sur le site internet radiobalise.com. Merci messieurs.
Merci à vous, merci Radio Balise d'exister.
Avec toi.
À très bientôt. La semaine prochaine, on n'a pas d'invité encore, mais ça va venir. Il n'y aura pas de thème non plus, Thierry, mais ne t'inquiète pas. Allez, générique.
Allez, salut.
Club, c'est tous les lundis soirs à 21h et les jeudis à 10h du matin sur le 99.8 ou sur radiobalise.com.